t'entends différents petits cailloux et différents petits éboulis dans différents trous à différentes distances. T'arrives sur les moraines de la mer de glace. On est vraiment sur des endroits qui s'effritent, qui s'effondrent. Parce que ça fond, ça s'écoule, ça craque, ça s'écroule. Concrètement, la moraine, c'est des amoncellements de roches qui sont charriés par les glaciers. Donc le glacier, il dépose des moraines et quand il se retire, il laisse des moraines. C'est vraiment transporté par les glaciers. La spécificité des moraines, c'est que c'est à la fois c'est un mélange de limon, sable, argile, cailloux, rochers, blocs de toute taille. Mais quand je dis toute taille, c'est des rochers qui sont gros comme un ballon de foot et des rochers qui sont gros comme un immeuble, qui sont agglomérés et dispersés dans ces paysages lunaires. Avec la fonte accélérée des glaciers, c'est en train de prendre une place énorme dans notre paysage. Plus ça va, plus quand tu vas voir un glacier, tu tombes pas sur un glacier, tu tombes sur un gros trou.
Camille Liobet est en train de produire une vidéo courte tournée en haute montagne sur la mer de glace. Elle nous explique ce qu'est un paysage de moraine et comment on peut y tourner un film. Comment de nouveaux paysages apparaissent en conditions de bascule climatique? Comment réagit le corps humain lorsqu'il dévale une pente instable? La montagne est-elle aussi silencieuse qu'on se l'imagine? Je suis Hélène Mézel et vous écoutez Recherche Artiste, le programme qui écoute les artistes en pleine recherche. Camille Liobet, à la recherche de la montagne en mouvement.
Au début, comme tous les projets, ça part d'une rencontre avec les guides de haute montagne. Puis il y a un intérêt pour décaler mon travail, déplacer, après vraiment avoir poussé l'histoire du geste, du langage, etc. Sortir du studio, penser différemment. Et puis tout d'un coup, ça a ouvert le fait de plus travailler uniquement sur l'humain, mais de travailler sur le milieu, sur les gestes, sur le langage, sur la manière d'habiter, la manière de comprendre un milieu. Et puis aussi, on arrive sur un temps géologique assez unique, où normalement on t'explique que les montagnes se sont formées il y a des milliers d'années. Tu hoches la tête, mais tu comprends pas ce que ça veut dire. Enfin, t'es pas capable de comprendre les échelles de temps de la création d'une montagne. Donc aujourd'hui, elles sont en train de s'écrouler face à toi tous les étés, et tu assistes à une transformation géologique. Et c'est comme si l'échelle de temps d'une vie humaine et l'échelle du temps géologique, à ce moment-là, étaient en phase. À la fin de l'école d'art, j'ai travaillé un peu en saison en refuge de moyenne montagne, dans une cuisine de refuge. Et les cuisines de refuge sont des espaces de parole et de rencontres. Et il y a eu vraiment une rencontre avec les guides. Moi, je pars souvent de rencontres dans mon travail. Voilà, la femme sourde, le chef d'orchestre, la soprano, l'enfant qui parle pas encore, le sportif de haut niveau. C'est souvent des mondes qui m'intéressent, des langages qui m'intéressent et des rencontres. Et depuis ce moment de travail à Très la Tête où j'ai aperçu des sensibilités, des manières de penser, des passionnés aussi, c'est quand même des gens assez particuliers, les guides de montagne, j'avais cette petite idée de travailler avec eux. Étant à la fois une habitante de montagne, liée aux professionnels de montagne, parce que étant fille de pisteur, fille de guide, je dialogue facilement avec des gens qu'on rencontre pas forcément facilement. Et d'avoir un regard de plasticienne. Moi, ma famille d'artistes, ma première famille d'artistes, c'est des sculpteurs. Donc, mon regard sur la représentation de la montagne vient de la matière, de la sculpture, du geste. Ça me donne une sorte d'expertise particulière qui me donne envie de transmettre et de partager.
Je vois Camille le 6 novembre 2024 dans son studio de montage à la montagne, à Sallanches où elle vit, en Haute-Savoie. Camille a longtemps repoussé le moment de travailler sur la montagne, un milieu peut-être trop proche et trop familier pour elle. Mais en 2023, elle réalise un premier essai documentaire de 60 minutes sur le massif du Mont-Blanc. Elle filme alors la montagne dans sa matérialité concrète. Elle capte le ras du sol plutôt que le ciel, la descente plutôt que l'ascension. Elle collabore alors avec des travailleurs de la montagne qui formeront une équipe sur plusieurs projets. Des guides et des géomorphologues témoins d'une montagne en train de fondre, de s'écrouler. Ce premier film s'intitule « Pacheux », un mot de patois qui contracte passages et chemins, pacheux, ou comment les guides pistent de nouvelles voies dans un milieu mouvant. Plus courte, Moraine sera une vidéo d'une quinzaine de minutes. Camille est en train d'en réaliser le montage. On y voit un homme et une femme dévaler la pente.
Donc Moraine, mais alors Moraine, c'est un projet de recherche qui se décline en plusieurs formats. Et le format principal, c'est un film court, plutôt qui sera présenté dans des expositions. Comment rendre à travers le cinéma un paysage de un milieu de montagne, pas par le visuel de loin dont on a plus l'habitude, mais par la kinesthésie, par le mouvement. Et c'est pour ça que je travaille avec des gens qui parcourent ce paysage au quotidien. Là, en l'occurrence, c'est une équipe de deux guides de haute montagne qui s'appellent Sarah Blanc et Laurent Bibolet. Moi, quand je filme, il y a vraiment un truc où je veux enregistrer et filmer au plus proche du sujet en train de marcher. C'est assez compliqué, hein, parce qu'une caméra, tu peux pas suivre. La personne sort du champ, sort de la zone de netteté assez rapidement. Donc, tu essayes de trouver des endroits où tu peux les mettre dans un lieu engagé, mais filmer le plus longtemps possible, arriver à avoir un déroulé de leurs gestes, de leurs regards, de leur posture, de leurs pieds. Par contre, on se met dans des petits terrains où ils sont vraiment engagés dans la matière. Donc ils sont dans un état de concentration. C'est une pente de 5 mètres, mais cette pente de 5 mètres, ils sont vraiment engagés, quoi. Et on tourne des plans serrés, des plans plus larges pour comprendre, on peut arriver à choper ce qui se passe dans leur corps, quoi. Moi, j'avais envie de rester dans les moraines de la mer de glace. Donc, en fait, la situation qu'on a trouvée sur ce tournage-là, c'est pas d'aller dans les refuges d'au-dessus, c'est de bivouaquer sur la mer de glace. Mais tu bivouaques dans un endroit où t'es dans un champ de cailloux, sous des falaises de sable dans lesquelles sont accusés des énormes cailloux qui potentiellement peuvent tomber. Donc, s'il y a un moindre risque de changement de météo, t'y vas pas. Tu dois d'abord comprendre où est-ce que tu vas poser ton bivouac, que si jamais il y a des effondrements, ben, t'es à l'abri des chutes de pierre. Et ce qu'on appelait avant la mer de glace, qui avait l'air d'être une mer de glace, on voit ces images, ce qu'on appelle les bandes de forme, ça faisait des bandes blanches, noires. Aujourd'hui, c'est à la fois des grosses collines de sable et de moraine, et aussi ce qu'on appelle, je sais plus, c'est glacier rocheux ou glacier noir, en tout cas, il y a de la glace, mais elle est recouverte par des tas de sable et des tas de cailloux. La moraine, c'est ce qu'on appelle des tas de pu, quoi. Enfin, où c'est dangereux, où tu te fais mal aux pieds, où c'est long, où il faut trouver où ça passe. Et en même temps, ça reste un endroit géologique assez fascinant. Et Sarah et Laurent ont pris, je pense, du plaisir à bivouaquer dans cet endroit-là. Donc, t'as une manière de déambuler sur une moraine qui est très précise, où ils vont déjà jouer entre leur regard, définir où ils pensent passer et leur trajectoire. Et ils vont à la fois jouer sur des jeux d'équilibre, ils vont vraiment essayer de très peu appuyer leurs pas. Souvent, les gens disent, on dirait que c'est des chats qui se promènent parce que t'as vraiment un truc où t'appuies pas tes pieds. Parce que potentiellement, si tu sens que le caillou sur lequel tu te poses part, tout de suite, tu vas prendre l'équilibre sur l'autre pied et tu vas jouer aussi sur une histoire de vitesse. C'est-à-dire que si tu vas trop doucement, tu risques de trop appuyer tes pieds. Donc tu vas aller dans une certaine vitesse, dans un certain rythme, où tu vas être capable carrément de soit de sauter si ça s'effondre et qu'il faut que tu sors du terrain où t'es, soit de laisser glisser, laisser une chute presque se faire pour se rattraper ensuite. Et en fait, gestuellement, c'est hyper complexe ce qui se passe. Et il y a un truc qui me paraît être proche de ce qu'on pourrait trouver dans de la danse, quoi. Un plan sur Laurent Bibolet qui descend, on filmait plutôt que ses jambes en train de crapahuter dans des cailloux. Il décompose tellement son mouvement et en appuyant si peu. Il y a un peu un truc désarticulé dans son corps, de précision, de pose de pied. On avait presque l'impression sur l'écran retour que l'image était au ralenti.
Camille Liobet accorde une grande importance au paysage sonore. Pour certains projets, elle a développé des dispositifs d'enregistrement et d'écoute spécifiques, comme ce micro qu'elle a elle-même bricolé et qui s'appelle une tête binaurale. Une tête de mannequin, dont les deux oreilles sont équipées chacune d'un micro pour capter les sons tels que les perçoivent nos corps, le pavillon de nos oreilles, mais aussi notre visage et notre boîte crânienne, un son spatialisé dans les trois dimensions. Elle a ainsi capté des coulures de neige en pente raide, des éboulements rocheux, des ruisseaux souterrains, des brisures de glace, une progression en crampons et piolets sur cascades de glace, une forêt enneigée qui fond au soleil et des ricochets de pierres jetés sur un lac gelé.
Ils ont, eux, des petits micros sur eux pour enregistrer tous les bruits de leurs gestes. Et après, il y a un travail de son où j'enregistre à la fois le bruit de leurs gestes. Donc ça donne à entendre le paysage par le bruit de leurs gestes, du contact, du mouvement, du toucher. Et il y a d'autres micros qui viennent enregistrer ce qu'on appelle les fonds d'air. C'est le bruit du lieu, quoi, du milieu. Et qui sont aussi hyper importants, hyper intéressants parce que la montagne fait énormément de bruit dû à ce qui se joue en ce moment. Parce que ça fond, ça s'écoule, ça craque, ça s'écroule. C'est vraiment par le son que tu sens le plus que cette montagne est en train de... Enfin, un élément vivant, dans le sens où il se passe des choses, quoi. Étant donné que les glaciers ont fondu, on se retrouve avec des espèces d'énormes vallées caisses de résonance, quoi. Et je viens enregistrer pareil, à la fois le son qui explose dans des immenses vallées moréniques, et en même temps aussi tous les bruits des petits écroulements et des petits effrêtements dans les crevasses. Chaque caillou qui tombe dans chaque trou va avoir une résonance différente selon la profondeur de la crevasse. Donc t'as plein de bruits, t'as l'impression d'avoir une cité en mouvement, quoi. Il se passe plein de choses, quoi. Il y a plein de choses qui se passent au niveau du bruit. Alors le bruit, il est... c'est ce que dit un des guides dans le film Pacheux. Vu que le paysage se transforme, ils peuvent plus se baser sur leurs expériences. Et il dit, ça nous rallume un peu l'attention. Le son est un grand indicateur d'écroulement rocheux. Par exemple, les moments où ça va s'écrouler, mais pas des petits écroulements, des très gros écroulements, qui peuvent être plusieurs mètres cubes d'écroulement. T'entends des bruits d'eau dans les fissures, t'entends des bruits de digestion. Donc si t'es en train de grimper une paroi et que tu te mets à entendre des bruits d'eau dans la paroi et des bruits de digestion, tu t'en vas tout de suite parce que c'est très mauvais signe.
C'était Recherche Artiste, un programme à l'écoute des artistes en pleine recherche. Camille Liobet, à la recherche de la montagne en mouvement.